Costas Paparrigopoulos és musicòleg i ensenya al Departament d'Enginyers de Tecnologia Musical i Acústica de l'Institut Tecnològic Educatiu de Creta. I els seus interessos, la seva línia d'investigació, el porta sobretot el que és la música de mitjans del segle XX fins a l'actualitat i particularment la música de Yanishenakis i de John Cage. Els seus últims interessos el porten també a una dimensió pluridimensional, de fet, i pluridisciplinar de la música, i en concret les qüestions que lliguen la música en la part social i ecològica. Ell és president de la Societat Hel·lènica d'Ecologia Acústica, que és una organització que és filial del Fòrum Mundial de l'Ecologia Acústica. I això és la presentació, no pot ser.
Okay. Sí. Bon dia. Bonjour à tous, à toutes. Bon, d'abord, je vais remercier l'Université de Girona, Carme, pardon, pour nous avoir invités tous ici, nous donner l'occasion de communiquer sur un sujet qui est aussi intéressant et actuel. Bon, en commençant, je voudrais esquisser un peu mon cadre de ce que je vais dire. Un peu la problématique. Il s'agira d'un questionnement sur la perception des différentes musiques, sons et bruits qu'on attend autour de nous. Dans les villes, mais en dehors aussi des villes, une plus grande attention sera donnée au bruit, un son ou un événement sonore qui est qualifié d'habitude comme étant indésirable, que ce soit en musique, en urbanisme ou dans la vie quotidienne. Une question intéressante ici, c'est comment est-ce qu'on peut qualifier un son comme étant indésirable ou désirable, bruit ou pas bruit, avec quels critères biologiques, esthétique, éthique, écologique ou même économique ou politique. Est-ce qu'on peut avoir des critères objectifs, scientifiques, mesurables, ou ces critères sont subjectifs, culturels et variables selon les époques? Comment cette même question trouve des expressions différentes selon l'optique qu'on adopte? Je vais donc aujourd'hui m'arrêter à quelques observations qu'on peut faire sur cette problématique et les mettre en discussion. Bouton. Oui, c'est bon, ok. Bon, ces questions concernent l'esthétique et la liberté dans l'art, la formation et l'expression de la subjectivité, soit individuelle, soit collective, ou les deux, enfin, on ne peut pas faire de différenciation, et aussi bien des extensions sociales, écologiques, politiques ou même géopolitiques, qu'on peut y considérer. Bon, en musique, va bien? Oui.
Approche.
Ok. En musique, la question des sons désirables ou indésirables a une dimension esthétique, mais il y a aussi une dimension historique. En regardant dans l'histoire de la musique, on trouve fréquemment dans le passé des œuvres inspirées par l'environnement sonore de la nature, elle-même considérée souvent comme apollonienne, paisible, idyllique, mais aussi parfois dionysiaque, agitée, voire orgiaque. Nous pouvons mentionner des exemples bien connus comme Vivaldi, Les chants des oiseaux, merci, ou Le bruit des orages. On peut aussi aller à Debussy et Les vagues de la mer, ou le réveil de la nature dans Mahler ou dans Schoenberg, Farben. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est que depuis le début du XXe siècle, les compositeurs sont aussi intéressés par les sons produits et par l'activité humaine. Les bruits de la ville moderne, spécialement ceux qui sont émis par des machines, attirent l'attention des compositeurs, en particulier de ceux dits de l'avant-garde. Ces compositeurs sont fascinés par les progrès et les promesses de la révolution industrielle, mais aussi et surtout par l'univers sonore qui accompagne cette révolution. Nous pouvons dire que si au cours des siècles passés il y avait dans la musique une progressive émancipation de la dissonance, à partir du début du XXe siècle, ça va être l'émancipation du bruit. Dans Luigi Russolo, l'éveil de la ville n'est plus idyllique, mais rempli de bruit mécanique. Arthur Honegger, il est fasciné par le train, en particulier par le plus puissant et sans doute le plus bruyant. Quand Edgar Varese, il fait entrer le bruit des percussions et des sirènes mécaniques dans les salles de concert. Dans la seconde moitié du siècle, la tendance va continuer, peut-être elle sera même amplifiée. Pierre Schaeffer et les compositeurs de la musique concrète vont utiliser dans les travaux que des sons enregistrés. Le magnétophone permet l'enregistrement, l'édition et la diffusion de pratiquement de tous les sons de l'environnement, bruyants ou pas. En même temps, la musique électronique permettra d'enrichir notre palette sonore avec de nouveaux sons inimaginables, inattendus jusqu'à maintenant. De l'autre côté de l'Atlantique, John Cage, l'admirateur de la vie quotidienne, va jusqu'au point de trouver plus intéressant les sons du trafic de New York que la musique de Beethoven ou de Mozart. Quant à Yannis Xenakis, le bruit de la foule dans les manifestations politiques et le crépitement des mitrailleuses dans les rues d'Athènes seront une source d'inspiration dans ses formalisations théoriques, ainsi que dans sa musique instrumentale et électroacoustique. Enfin, dans les années 60, la musique rock apparaît aussi grâce à la commercialisation massive des produits de la révolution électronique. On fabrique et on vend aux clients des machines musicales, des amplis, des guitares électriques, à des prix accessibles à tous. Ces machines sont capables de modifier les timbres et les volumes d'un instrument, et dans certains cas, elles sont capables de faire vraiment du bruit. Ainsi, la distorsion de la Stratocaster de Jimi Hendrix va dynamiser l'esthétique musicale. Le bruit devient un moyen pour libérer la société. Le bruit s'engage au service de la révolution. D'ailleurs, la révolution était toujours bruyante. Cependant, une nouvelle approche écologique du son vient de naître dans les années 60-70. Et la relation entre la musique, le son et le bruit prend une nouvelle dimension. Tous ces sons forts, agressifs, dionysiaques, qui ont nourri le modernisme, vont acquérir une charge négative, vue à travers une écologie du son. Ici, la question des sons indésirables, principalement des sons forts d'une grande intensité, mais aussi des sons électroniques, devient prépondérante. Dans les années 70, Murray Schafer introduit le concept de soundscape, du paysage sonore comme on traduit en français. Pardon?
Panorama.
Panorama, si tu préfères, oui. En isolant et en autonomisant, en quelque sorte, la sensation auditive des autres sensations. En même temps, il a introduit l'idée d'une dichotomie entre panorama de haute fidélité, donc j'écris paysage sonore de haute fidélité, dans lequel tous les volumes sonores sont bas et équilibrés, et on peut atteindre tous les sons, et le paysage sonore de basse fidélité, low fidelity, dans lequel les sons les plus forts dominent et masquent les plus faibles. Ces concepts sont exprimés en termes de la théorie d'information, comme un rapport signal sur bruit, afin de les rendre aussi mesurables en décibels. Unité qui est d'ailleurs utilisée aussi dans la lutte contre la dite pollution sonore. Cette dichotomie entre IFI et LOFI est énoncée avec une hypothèse morale intégrée. Le LOFI est bon, le IFI est bon et le LOFI est mauvais. Les sons faibles, voire les silences, prennent une place prépondérante dans ces esthétiques. Par contre, le son fort est considéré indésirable, il est presque ou carrément démonisé. Le paysage sonore IFI, le bon, est associé surtout à la campagne pré-industrielle et le LOFI, le mauvais, au paysage sonore issu de la révolution industrielle, post-industrielle et électronique, notamment dans les villes. Ainsi, le IFI va devenir en quelque sorte un idéal acoustique à rechercher, bien prometteur, qui rendra aussi service à la lutte contre la pollution ou nuisance sonore. Dans ces esthétiques, nous nous éloignons de la ville bruyante et on retourne à la nature paisible. Les sons forts de la ville vont être accusés et mis en opposition avec les sons de la campagne. Et dans bien des cas, on essaiera de faire appliquer ou transférer le paradigme de la campagne à la ville. Ici, on dirait presque que la ville idéale devrait rassembler, ou au moins acoustiquement, à la campagne. En définissant le paysage sonore, Murray Shaver ouvre en même temps la voie au nouvel art sonore. Il écrivait dans son fameux livre que le terme paysage sonore peut se référer aussi bien à des environnements réels qu'à des constructions abstraites, comme composition musicale ou montage sur bande, en particulier lorsqu'elles sont considérées comme faisant partie de l'environnement. Ainsi, de nouvelles pratiques en art sonore apparaissent, comme le field recording, les compositions de paysages sonores, soundscape compositions. Les compositions de paysages sonores, telles qu'elles sont théorisées notamment à l'Université Simon Fraser à Vancouver, sont aussi portées d'une morale écologique. Selon Barry Truax, un des pionniers de l'écologie acoustique, les compositions de paysages sonores nécessitent d'avoir un objectif. Elles doivent viser à la réintégration de l'auditeur avec l'environnement, dans une relation écologique équilibrée. Mais en attribuant un objectif moral à la composition, on opère en même temps une altération importante au rôle de compositeur. Rôle qui commence à se confondre avec celui de l'éducateur. Ou, comme le formule plus fermement François Bernard Mas, dans le cas, le compositeur n'a apparemment plus de fonction autre que pédagogique. Évidemment, avec ces compositions de l'écologie acoustique, plusieurs questions se posent. Est-ce que c'est un retour plutôt nostalgique vers le passé pré-industriel? Est-ce que c'est une sorte de néoclassicisme? Est-ce que c'est un moralisme esthétique? est bien d'autres questions. En mettant en pratique la dichotomie entre son désirable et son indésirable, une première observation qu'on peut faire concerne l'implication de la subjectivité individuelle dans les jugements. Des sons désirables ou indésirables, pour qui? Ici, on entre dans le domaine de la richesse de la subjectivité humaine, mais aussi de sa contradiction. Chose qui est d'ailleurs signalée par Murray Schafer quand il écrivait que la musique d'un homme peut être le bruit d'un autre. On peut rester un peu sur la subjectivité et faire quelques remarques. En étant enseignant, comme peut-être pas beaucoup, mais il y en a entre nous, on se trouve souvent devant des étudiants qui aiment écouter la musique rock, house, trance, rap, noise ou d'autres musiques dites bruyantes. Peut-être quelques-unes et quelques-uns parmi nous, on aimait aussi de telles musiques quand on avait les rases. Et peut-être il y en a qui aiment encore écouter ces musiques. Dans ces musiques, on aime souvent mettre le volume de la scène hi-fi presque au fond. Bien sûr, plus le volume de la scène hi-fi monte, plus le paysage sonore devient lo-fi. On arrive des fois à des volumes qu'on a du mal à s'attendre avec notre voisin. Dans ce moment, le son émis par les haut-parleurs devient la seule unique réalité sonore qui peut être perceptible. On peut être gêné par cette situation, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui prennent un véritable plaisir par cette bruyante atmosphère sonore. Et on peut remarquer facilement que plus l'âge augmente, plus cette forme de plaisir diminue. Ce qui est intéressant à observer ici, c'est que la situation de la classe peut s'inverser quand c'est le prof qui met une musique forte, mais aussi dans un genre musical inconnu ou presque pour les étudiants. Par exemple, faire écouter un extrait de Bohor de Xenakis aux étudiants en première année. Les étudiants ne sont pas autant gênés que par le volume sonore. Xenakis, il demandait que cette pièce se soit jouée très fort, mais aussi par la présence de sonorités peu habituelles à les oreilles. On voit ainsi qu'une musique, un paysage sonore ou un seul son peut devenir indésirable, non seulement par le volume, par ses décibels, mais aussi par son contenu sonore. Un exemple bien connu, c'est la forme d'onde sinusoïdale, qui est qualifiée par la plupart des gens comme un son indésirable, même en très bas volume. Un autre paramètre qui peut intervenir et modifier les jugements est le temps. Un son est désirable ou indésirable quand? Le même son peut être désirable à un moment et indésirable à un autre. La répétitivité temporelle d'un événement sonore peut aussi changer sa qualification. Un son peut être désirable quand on l'écoute une ou deux fois, mais il peut devenir indésirable quand il se répète. Par exemple, les cloches d'une église à la campagne, les premiers jours de vacances, et les mêmes cloches après une semaine. Une autre remarque. Un son peut être désirable quand c'est nous qui on le produit, quand on est l'émetteur du son, mais il peut devenir indésirable quand il est émis par une autre personne. Et nous devenons des récepteurs passifs. Par exemple, un pianiste qui travaille chez lui, et nous que nous avons la malchance d'habiter l'appartement à côté de lui. Et je ne parle pas du saxophone. On peut continuer et trouver d'autres situations et donner des exemples qui montrent que le rôle qui joue la subjectivité dans l'évaluation d'un son comme étant désirable ou indésirable. Évidemment, la subjectivité n'est pas seulement individuelle, mais elle est également collective. La subjectivité collective d'un groupe humain, d'une communauté qui partage quelques idées et quelques pratiques communes, joue également un rôle déterminant dans l'évaluation éthique et esthétique d'un son. On peut s'arrêter un peu à un son qui, en écologie acoustique, est considéré comme indésirable. Le son plat, le flat line sound. Un son plat typique est celui du moteur, soit à combustion interne, soit électrique. Dans la même catégorie, on classe aussi le bourdon musical, le drone, une note tenue sur laquelle on s'appuie une ou plusieurs mélodies. Le son plat est caractérisé par une répétition quasi interminable. Il reste constamment le même et il est généralement qualifié comme étant monotone et ennuyant. Et au cas du bourdon, même hypnotique. À une grande intensité, il devient extrêmement indésirable, voire insupportable. Malgré la connotation négative qui accompagne ces sons, il y a des sons plats, et même d'une très grande intensité en décibels, qui sont agréables, ou au moins caractérisés ainsi par des populations pour lesquelles ces sons ont une signification liée à la vie et à l'imaginaire collectif de la communauté. On peut citer par exemple les populations qui ont toujours vécu auprès des cascades, comme celles qui vivent près des chutes de Niagara. Pour ces populations, une hypothétique tentative politique de diminution des décibels du son des chutes, au nom du combat contre la pollution sonore, aurait touché un élément essentiel de leur quotidien, de leur identité et de leur singularité. On peut dire la même chose pour tous les peuples de la Méditerranée, qui ont toujours vécu pendant des siècles avec le chant des cigales. On l'appelle aussi le bruit des cigales. Ces observations ne veulent pas dire qu'on doit être en admiration devant le bruit des moteurs. Okay. Même s'il y a des gens qui trouvent ce son intéressant, je ne parle pas seulement des admirateurs des courses automobiles, mais il y a aussi des compositeurs qui aiment utiliser ce son dans leurs compositions, ou des artistes, sonores ou pas, à leur installation ou d'autres au cinéma, etc. Ces observations veulent surtout souligner le fait qu'on ne peut pas énoncer un jugement esthétique ou moral sur n'importe quel son, et encore plus y appliquer une politique sonore, sans prendre en considération le singularisme de la subjectivation individuelle et collective. Il semble bien que la qualification d'un son comme étant désirable ou indésirable devient vite une chose assez complexe, vu le nombre de paramètres qui entrent en jeu. En plus, ces paramètres ne sont pas exclusivement sonores, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas uniquement de la manifestation sonore d'un phénomène physique. Par conséquent, il devient difficile de parler d'une écologie du son sans parler en même temps d'une écologie au sens plus général, plus large. En d'autres mots, l'écologie du son ne peut pas être considérée et étudiée comme un système clos, autonome, mais plutôt comme un processus ouvert et interdépendant. On peut évidemment étudier les caractéristiques physiques d'un phénomène sonore ou d'un paysage sonore, comme l'acoustique le fait déjà depuis des siècles. Mais à partir du moment où la sensibilité humaine entre en jeu, à partir du moment où une relation écologique s'établit, au sens d'une interaction d'une interdépendance entre les différents composants de l'environnement, on est obligé de prendre en considération l'aspect psychique et social de l'homme aussi. Restons maintenant en paix à l'aspect socio-écologique. Les récits qui déploient l'écologie du son est surtout basé sur l'idée qu'en améliorant le paysage sonore environnant, on améliore en même temps la société qui habite ces paysages sonores. C'est sur la même idée que se sont aussi basées les interventions urbanistiques contre la pollution sonore. Toutefois, une proposition inverse peut être aussi formulée. En améliorant le système sociopolitique, améliorant toujours entre guillemets, on améliore en même temps le paysage sonore environnant. Je vais m'arrêter sur cette proposition et sur certaines réflexions qui se sont exprimées sur l'absence d'une analyse sociopolitique en écologie du son. Analyse qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et élargir ainsi son champ théorique et pratique. En grande ligne, l'analyse sociale de l'écologie acoustique se limite au constat d'une détérioration de l'environnement acoustique qui a commencé avec la révolution industrielle et l'apparition des machines pour aboutir à la révolution électronique et la schizophonie, c'est-à-dire la séparation d'un son de sa source en raison de son enregistrement sur un support. Mais cette analyse ne touche pas aux idéologies et aux politiques qui existent au fond, ou peut-être au premier plan, qui définissent et orientent le cours du progrès et forment ainsi notre environnement quotidien, qui est également sonore. Nous pouvons citer le cas d'un artiste cercaire, Greg Wagstaff, qui propose une écologie du son plus active sur les questions sociales. Il estime que nous devons nous pencher davantage sur les procédés et les appareils politiques qui régissent notre paysage sonore et pas exclusivement au son. Il qualifie l'approche de l'écologie acoustique sefferienne phonocentrique et aussi celle de l'écologie profonde d'Arnaès biocentrique. Constate, selon McCartney, qu'aujourd'hui, l'écologie du son est implicitement liée à l'écologie profonde. Il suggère alors que l'écologie du son ferait bien de réfléchir sur les objectifs de l'écologie sociale, qui tient également compte des relations sociales et politiques entre les gens. Et il remarque à la fin, en forme de slogan, qu'en fait, le paysage sonore est à nos oreilles, mais pas entre nos mains. Dans le même esprit, il propose également une connexion de l'écologie du son avec l'écologie sociale de Murray Bookchin. Le philosophe américain, un des principaux représentants de l'écologie sociale, et en parenthèse, cité plusieurs fois par Serge Latouche et le mouvement de la décroissance, mettait l'accent sur les liens entre l'environnement et la société, et en particulier sur le fait que le premier, l'environnement, dépend de la seconde, de la société. Il écrivait que, en dernière analyse, il est impossible de réaliser l'harmonisation de l'homme avec la nature sans créer une communauté humaine qui vit en équilibre permanent avec son environnement naturel. Il ajoutait que ce qui confère littéralement le caractère social à l'écologie sociale, c'est la reconnaissance du fait souvent négligé que presque tous nos problèmes écologiques actuels découlent de problèmes sociaux profondément enracinés. Les problèmes écologiques actuels ne peuvent être véritablement saisis et encore moins résolus sans faire clairement face aux problèmes de la société. Bookchin s'oppose à l'environnementalisme qui est selon lui une approche fragmentaire des problèmes environnementaux comme des patchs, comme il dit, et il l'accuse de ne pas pouvoir donner de véritables solutions en entretenant ainsi un régime problématique à la base. Il est lui aussi très critique à l'égard de l'écologie profonde de Arnaès, qui considère l'humanité comme une mauvaise chose anthropocentrique, vraisemblablement un produit malin de l'évolution naturelle, comme il écrit Bookchin, qui surpopularise la planète et dévore, tout ça, entre guillemets, ses ressources en détruisant la faune sauvage et la biosphère. Il conseille donc un changement profond de la structure sociale avec la création de nombreuses petites communautés écologiques, autonomes et démocratiques, vivant en harmonie avec leur écosystème. Plusieurs de ces petites communes en sable peuvent constituer une communauté plus grande, beaucoup de plus grande, encore une plus grande, et ainsi de suite, comme les poupées russes, disaient certains qui, en plaisantant sur son origine russe de Bookchin. On peut aussi se référer à la proposition écosophique de Félix Guattari, qui est une proposition semblable dans le sens qu'elle est animée par les mêmes inquiétudes écologiques et l'envie d'élargir le débat. Dans son livre « Les trois écologies », Guattari propose une vision tripartite de l'écologie, non seulement environnementale, mais aussi sociale et mentale. Selon lui, on ne peut pas séparer les facteurs environnementaux du social et du mental au risque d'une détérioration de l'ensemble de ces trois domaines. Il n'est pas juste, comme il écrit, de séparer l'action de la psyché, du socius, de l'environnement. Le refus de regarder en face les dégradations de ces trois domaines, tel qu'il est entretenu par les médias, confine à une entreprise d'une infantilisation de l'opinion et de neutralisation destructive de la démocratie. Une dernière question que je vais aborder concerne une approche socioculturelle du son, qui a des caractéristiques économiques et géopolitiques. Déjà en 1979, François Bernard Mas, lorsque de la sortie du livre de Schaeffer, Le paysage sonore en français, il écrivait « On dirait que Marie Schaeffer désire à la fois que la Pax Americana contrôle tous les paysages sonores du monde, leur mise en fiche n'étant que la première étape. » Bon, Mas se référait ici au World Soundscape Project, un projet d'enregistrement et de réservation en fichier, en bande magnétique à l'époque, des paysages sonores du monde entier afin de les préserver de la disparition. Dans sa critique, Mas faisait allusion aux tentatives de domination planétaire qui ont accusé l'impérialisme américain à cette époque. Aujourd'hui, la domination est de plus en plus présente. Elle passe surtout par l'économie. Elle est bien globalisée. En Europe, la crise récente, dite économique, a fait ressentir d'autres une dichotomie entre le Nord et le Sud. Cette dichotomie, amplifiée par les politiciens et exagérée par les mass médias, contraste les Siemens et les Volkswagen du Nord face aux cigales et aux pigs du Sud. C'est une généralisation qui oppose aussi l'angélisation, je ne sais pas si ce mot existe en français, et la vanité du fort face à la démonisation et l'humiliation du faible. À cette dichotomie, et en rapport avec le sujet de nos journées d'études, on peut observer en parallèle une autre dichotomie qui concerne le paysage sonore. Celle du Nord, considérée globalement comme étant silencieux et paisible, comme la campagne Ifi, face au Sud, considéré encore globalement aussi comme étant bruyant et agité, comme la ville Lofi. Et même si ce parallélisme semble peut-être excessif, je pense qu'il sera intéressant d'y rester un peu. Je vais citer Andra McCartney, une figure importante de l'écologie du son au Canada, qui écrivait en se référant aux études du paysage sonore. La solitude des pâturages et des lointaines montagnes est sentimentalisée et opposée à la familiarité et la proximité du quotidien bruyant de la vie urbaine. En se référant au paysage sonore IFI comme un exemple d'un paysage sonore écologique, formons-nous les études du paysage sonore à travers une vision particulièrement nordique et isolationniste. Et c'est ce que nous voulons. Dans cette référence, il est question des différentes réalités sonores locales qu'on peut avoir sur la planète et en même temps des différentes dispositions culturelles à l'écoute du paysage sonore. On peut évidemment y avoir plusieurs questions, comme par exemple, est-ce qu'on privilège, même inconsciemment, certains paysages sonores familiaux et défavorise d'autres? Est-ce qu'on a tendance à généraliser et à transporter, voire même imposer, notre propre expérience culturelle locale dans un cadre autre, non approprié? Et une troisième question, au risque de tomber dans les pièges d'une théorie du complot, est-ce que c'est un jeu subtil de pouvoir et de domination? Qui peut éventuellement tirer profit de cette situation? En restant dans la même problématique, on peut faire d'autres remarques semblables aussi. On ne peut ne pas observer, par exemple, que le silence est aussi une caractéristique de l'homme individualisé, celui qui est isolé, éloigné de la foule bruyante. Elle est aussi une caractéristique de l'homme civilisé, de l'homme cultivé, qui se place en contraste avec le sauvage, bruyant et impulsif. On peut observer aussi que le silence est porteur d'une autre symbolique, celle de la soumission. Elle peut même devenir une sorte de punition. On dit qu'on fait taire les faibles, l'agité, l'enfant. Imposer le silence, littéralement ou métaphoriquement, est un acte de pouvoir, au même titre que l'imposition du bruit. Face à ces questions, l'écologie du son semble prendre une position plutôt apolitique, disons neutre. La difficulté avec une telle position est qu'elle crée l'image trompeuse d'une société sans classe, sans disparité et sans tension entre ses membres. L'image d'une humanité homogène, sans différence ou singularité locale. Et de cette manière, elle crée ainsi l'impression qu'il n'y a qu'une seule voie, une seule éthique qui légitimise l'application d'une seule réalité sociale, individuelle, voire sonore, partout dans le monde. Nous devons toutes et tous devenir en quelque sorte identiques, semblables, égaux et calmes. En définitive, cette tentative à l'homogénéisation, qui exclut progressivement les autres voies, ne peut avoir comme effet qu'un appauvrissement graduel de la diversité sonore. Et en faisant un jeu de mots, on risque ainsi de passer d'une polyphonie sonore à une homophonie, voire à une monotonie, une monophonie qui fait aussi allusion à la monotonie. Pour conclure, en trois lignes, je les ai comptées, je pense qu'une éventuelle dédémonisation du bruit, une décolonisation de l'imaginaire sonore des stéréotypes aurait pu favoriser l'émergence des idées émancipatrices et libératrices dans d'autres domaines aussi, des idées autant recherchées actuellement. Gracias.
Merci Costas pour cette présentation vraiment très très intéressante et très très riche. Je suis vraiment désolée parce que on nous attend en dehors, alors tout juste une question très très vite et après on continue la discussion en dehors tout en faisant un café parce que nous sommes en retard et on nous attend. Deien que, com és, anem justos de temps, com acostuma a passar amb aquestes coses, només ara una qüestió, i si teniu preguntes, després fent el cafè aquí fora, que ens estan esperant, doncs li podeu fer les preguntes i podem traduir també si teniu algun problema, i si no, en anglès. D'acord? Si no traduïm, si teniu qüestions. Alors, Inna, se deja? No, mais une question de... Non,
et justement, c'est intéressant le silence, ouais. Parce que c'est la figure d'Apocrate qu'on trouve dans des figurines antiques, etc. Et qu'on retrouve. En fait, ce geste, on le trouve dans plein de tableaux et de figurines. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que la question du silence comme une punition, etc. En fait, ça a été aussi une réduction de cette idée, de ce geste qui était en relation. Enfin bon, c'est très intéressant, effectivement, comment est-ce qu'on réduit le sens des choses à une seule direction, etc. Et voilà. Mais
Ouais. Enfin, je l'ai mis plutôt parce que le carnaval, d'habitude, c'est bruyant. Et là, on voit que même le carnaval doit être... Enfin...
Ok. Merci. Je suppose que ça s'entend... La Cristina Esclapés feia al·lusió a lo pertinent que és aquesta imatge quan al final parlava del silenci, que el silenci també és considerat moltes vegades com un càstig, no? Com una punició. I llavors hi diu que ha posat aquesta imatge perquè és la imatge del carnaval, del Carnestoltes, que és sempre molt sorollós i que tenim aquesta imatge que ens està demanant en un ambient com aquest que hi ha. Doncs, si us sembla, fem un cafè, tenim mitja hora i tornem.